ses pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Le Costa Rica, bordé à l'ouest par le Pacifique et à l'est par la mer des Caraïbes, regroupe 6% de la biodiversité mondiale. Ce petit pays d'Amérique centrale est souvent cité comme exemplaire dans la gestion de son environnement, surtout depuis que son président, Oscar Arias, a annoncé en 2007 qu'il serait le premier pays neutre en carbone d'ici 2021. Cela veut dire que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émis par les activités industrielles et le mode de vie de ses 5 millions d'habitants sera compensé. Le pays n'aura alors plus d'impact sur le climat. 10 ans plus tard, que s'est-il passé ? Costa Rica, le défi de la neutralité carbone, c'est un reportage de Léa Morillon réalisé par François Porcheron.
Je suis Edgar Gutiérrez, le ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica. L'aspiration du Costa Rica de devenir un pays neutre en carbone d'ici 2021 vient d'une déclaration politique du président Oscar Arias en 2007. C'est une déclaration politique. Il n'y avait aucune mesure prévue derrière. C'est juste une aspiration. Alors pourquoi en 2021 ? Parce que en 2021, le Costa Rica fêtera le bicentenaire de son indépendance. C'était assez irresponsable parce qu'il n'y avait aucune étude scientifique derrière permettant de dire si l'objectif pouvait être atteint ou pas. Cependant, cette déclaration politique a eu un effet très positif sur la société costaricienne. Les gens ont commencé à parler de la neutralité carbone comme d'un objectif national.
En 2009,
lors de la conférence climat de Copenhague au Danemark, le Costa Rica a officiellement présenté son aspiration de devenir neutre en carbone en 2021. Ce qui signifie qu'en 2021, nous aurons le même niveau d'émission qu'en 2005. C'est la définition qu'a utilisée le Costa Rica lors de la COP. Après cela, le pays a continué son programme lié au changement climatique. On a créé le programme Pays Neutralité Carbone et on a commencé à introduire un nouveau concept, à savoir émission moins réduction moins compensation est égal à zéro. Et si c'est égal à zéro, alors on est neutre en carbone. Donc en fait, il y a deux concepts de la neutralité carbone. Une équation qui doit être égale à zéro et une aspiration qui est d'avoir les mêmes émissions qu'en 2005.
Leia? Hi. Hi, nice to meet you. I'm Jenny.
Nice to meet you.
Lydia?
Let's get you in
and let's go.
L'une des variables de l'équation pour atteindre la neutralité carbone, c'est l'absorption des émissions, ce qu'a favorisé jusqu'à présent les gouvernements costariciens. Le meilleur moyen pour cela étant bien sûr de replanter des arbres. Et l'État n'est pas le seul à œuvrer à cette tâche, il existe de nombreuses associations, comme par exemple Community Carbon Tree. On est à bord du 4x4 de sa présidente, Jennifer Smith. Cette Américaine est installée à Platanillo, à 15 km de l'océan Pacifique, depuis une quinzaine d'années. Et là, elle nous emmène jusqu'à la nurserie où se trouvent les jeunes pousses d'arbres. Autour de nous s'étend la vallée de Platanillo et son herbe bien verte. Ici, pas de végétation luxuriante. On remarque qu'il y a peu d'arbres. Nous observons même à certains endroits que des pans entiers des collines se sont affaissés, laissant apparaître une couleur rougeâtre.
What happened here? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Yeah, they cut the trees down for the cattle farming.
Ils ont abattu les arbres pour l'élevage bovin. Et la terre a commencé à s'éroder, parce que c'est la forêt tropicale qui la maintenait. Et donc après 2 ans de violentes pluies conjuguées à un soleil tapant, toute la terre a été balayée. On se retrouve avec de l'argile qui a commencé à s'affaisser. Et vous pouvez le voir, un jour il y aura des glissements de terrain. Donc il est question là de tous les avantages de planter des arbres sous l'équateur. Parce que quand cette terre et les excréments de vaches vont jusqu'à la rivière qui elle-même finit dans l'océan, cela fait plein de nitrogène. Résultat, ça fait augmenter la température. Donc le plancton meurt alors que lui aussi permet de recycler le dioxyde de carbone, en plus des arbres. Donc l'océan se réchauffe. Il n'y a pas assez d'arbres pour compenser ce que l'océan faisait. Du coup, la température ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, j'ai lu un article ce matin. Une nouvelle étude met en relation les tempêtes de plus en plus violentes avec la température des océans et le fait que l'équateur ne rafraîchit plus assez les pluies. Ici, on a au moins 40 espèces d'arbres. Tous élevés un par un avec de l'amour, du soin, du temps et du suivi. Et nous créons des emplois à chaque étape du processus. Donc on a à peu près 13 000 arbres en gestion et seulement 11 000 d'entre eux sont financés. On plante toujours en prenant de l'avance. On ne compte pas sur le fait d'avoir plus de sponsors que d'arbres. On avance.
Et vous n'avez aucune aide de la part de l'État costaricien ?
Non. Ils ont leur propre programme de replantation, qui s'appelle le FONAFIFO. Ils donnent l'argent directement aux propriétaires de fermes. Ils les paient vraiment un tout petit peu pour replanter un arbre. Un des programmes du FONAFIFO que j'apprécie vraiment, c'est le paiement pour services environnementaux. Ce programme paie environ 125 dollars par hectare de forêt tropicale protégée. Donc, un fermier qui dispose de 15 hectares de forêt tropicale peut toucher 1 800 dollars par an. Ce sont des subventions qui augmentent tous les 5 ans. Et la seule règle, c'est simplement rester en dehors de la forêt, laissez-la tranquille et préservez-la. Je pense que c'est vraiment un programme efficace.
Les moyens mis en œuvre par l'État, mais aussi par des associations comme celle-ci, a permis au Costa Rica d'arriver aujourd'hui à une couverture forestière qui représente environ 50% de son territoire. Le tout est de savoir si cela suffit pour compenser les émissions de carbone du pays. Il faut donc pouvoir mesurer la capacité d'absorption des arbres. Et c'est notamment ce qu'on apprend à l'université Earth, qui forme depuis 1990 les futurs acteurs du développement durable. Alors, direction le campus, qui se situe à mi-chemin entre San José et la côte Caraïbe, à la rencontre d'un groupe d'étudiants chargés de ces mesures. Ici étudient des jeunes venus du monde entier. L'endroit semble idéal pour apprendre. Les quelques bâtiments de la faculté sont entourés d'une dizaine d'hectares de végétation où se côtoient forêts tropicales, zones reboisées et autres bananeraies.
Bonjour, je m'appelle Carolina Aguilar, je suis étudiante à l'université Earth en quatrième année et je ne vis pas loin de l'université.
Comment est-ce qu'on calcule exactement la capacité d'absorption de différents arbres ?
Vous savez, tous les arbres sont différents. Alors ce qu'on fait pour calculer la quantité de carbone que peut absorber chaque arbre, c'est de mesurer son diamètre, sa circonférence et ensuite sa hauteur. À partir de ça, on peut connaître la forme du tronc qui est la partie qui capture le plus de CO2. Puis, on la multiplie par un coefficient qui dépend de l'espèce de l'arbre. C'est un coefficient qui nous permet de dire la quantité de carbone capturée par l'arbre pour une période donnée. Parce que chaque arbre pousse plus ou moins rapidement en fonction du moment de l'année. Plus l'arbre est fort, plus il a d'années, plus il absorbera de carbone.
Est-ce que la capacité des arbres du Costa Rica vont pouvoir absorber encore plus de CO2 ?
On comprend bien qu'une forêt a une limite d'absorption du dioxyde de carbone, parce qu'il arrive un point où les arbres ne peuvent plus absorber le CO2 à la même vitesse. Plus ils sont vieux, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il est préférable, d'une certaine manière, pour absorber plus de carbone, de miser plutôt sur la reforestation. Donc, arrivé à un certain âge, on les coupe et on en replante de nouveau. De cette manière, on arriverait à un cycle plus efficace, parce que les forêts sont hyper importantes, pas seulement pour absorber le carbone, mais aussi pour les réserves d'eau.
C'est pas du vent. Magazine de l'environnement sur RFI.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
En 2012, les autorités estimaient que 40% des émissions de gaz à effet de serre du Costa Rica étaient compensées par ces forêts. Mais aujourd'hui, la compensation n'est plus l'unique priorité. Le pays se focalise davantage sur la réduction de ses émissions, et d'autant plus depuis l'accord de Paris. Le processus de décarbonisation de l'économie costaricienne est donc lancé, économie principalement basée sur le tourisme et l'agriculture. On reprend la route, pour cette fois le nord de San José, où se trouvent de nombreuses plantations de café. Au milieu d'entre elles se trouve l'Institut du Café, où nous avons rendez-vous avec son directeur technique, Carlos Fonseca. Il pilote ce qu'on appelle le Nama Café, une première mondiale, à savoir une stratégie appuyée par l'aide internationale pour réduire les émissions de carbone dans le secteur caféier.
De los mejores cafetales del país. Tiene el mejor café de Costa Rica.
El café sale a tu mesa, dorado solo en pureza.
Carlos Fonseca, je suis directeur technique de l'Institut du Café du Costa Rica.
Aujourd'hui, la production de café au Costa Rica représente quelle quantité d'émissions de gaz à effet de serre ?
Pour chaque kilo de café que le pays produit, on émet entre 0,5 et 1,5 kg de CO2. Ça, c'est la moyenne du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en dessous de la moyenne mondiale. Donc, on peut déjà dire qu'on produit un café faible en émissions de carbone, étant donné que la base mondiale est de 2. Mais ça n'empêche pas de mettre en place des actions de réduction d'émissions de CO2 pour obtenir un chiffre encore plus bas.
Et concrètement, quelles sont les actions que vous avez menées et que vous allez continuer de mener pour décarboniser la production de café ici au Costa Rica ?
Au niveau des plantations, on va essayer d'installer des procédés qui absorbent le carbone. Par exemple, moi, dans ma plantation, j'ai mis en place un système agroforestier. Ça, c'est une des actions mises en place par le projet NAMA, mettre plus de systèmes agroforestiers dans les plantations, mais qui ne limite pas la production. Ça, c'est important. Autre action concrète, je vais fertiliser en fonction de ce que me dit l'analyse des sols. Je ne vais pas fertiliser n'importe comment.
Prenons
un autre exemple, la pulpe de café. Sans un traitement adéquat, elle peut générer une quantité de carbone très élevée. Par contre, si je l'utilise et la convertis en énergie, alors le carbone ne va pas dans l'atmosphère et je peux l'utiliser comme biocarburant. Donc tout ça, plus la gestion de l'eau, ce sont les actions qui vont m'offrir la possibilité de réduire mon empreinte carbone. Et c'est à ça que le projet s'attelle.
L'utilisation des énergies renouvelables dans le processus de plantation de café, comme dans les autres secteurs, constitue un moyen non négligeable de réduction de l'empreinte carbone. Et le Costa Rica n'est bien sûr pas en reste dans ce domaine, puisque 98% de son électricité est produite proprement. Grâce à l'énergie hydraulique, géothermique, mais aussi dans une moindre mesure éolienne et solaire. L'électricité verte est une grande fierté ici. Elle a également aidé certaines entreprises du pays à obtenir la certification carbone neutre. L'un des organismes participant à cette certification, c'est l'université Earth. On retourne donc sur le campus, mais cette fois direction l'unité neutralité carbone de l'université.
Je m'appelle Edmundo Castro, je suis le directeur de l'unité neutralité carbone de l'université Earth. C'est un organe certifié chargé de la vérification des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons lancé ce programme afin d'appuyer les entreprises et les organisations du secteur public pour qu'ils puissent agir de manière plus responsable envers l'environnement, pour qu'ils comprennent le concept d'externalité et qu'ils opèrent pour une économie plus saine, et aussi pour changer le comportement des gens.
Et comment se passe exactement la vérification? Quels sont les critères que les entreprises doivent remplir?
Les entreprises doivent remplir des critères normatifs, des normes internationales. Et en plus, il existe une norme nationale qui nous permet de développer un plan additionnel de réduction et de compensation des émissions pour que l'entreprise arrive à la neutralité au niveau de son bilan carbone. La certification est vérifiée chaque année. Tous les ans, on doit retourner voir l'entreprise pour savoir si elle répond toujours aux exigences et aux critères normatifs.
Dans quel secteur d'activité sont les entreprises qui viennent vous voir ?
De secteurs très variés. Par exemple, le secteur des services, des hôpitaux, des transports, de la restauration, de l'hôtellerie. Mais il y a également le secteur industriel, touristique, l'agriculture, l'élevage. En faisant ça, les entreprises recherchent à donner une meilleure image. Elles pourraient aussi l'utiliser comme un argument marketing. Mais malheureusement, au Costa Rica, ce processus de certification est totalement volontaire.
Aujourd'hui, au Costa Rica, près de 90 entreprises disposent de cette certification carbone neutre. L'effort semble donc se généraliser dans la société costaricienne pour atteindre l'objectif en 2021, mais certains domaines posent encore largement problème.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va et vous ?
Si vous voulez, on passe là, à côté ?
Oui, très bien.
Nous sommes à l'Université nationale du Costa Rica, à San José, pour rencontrer Nicolas Beuglin, un professeur français de droit international qui vit ici depuis de nombreuses années. Lui, comme beaucoup d'autres costariciens, doute du bien fondé de cet objectif neutralité carbone.
Alors la carbone neutralité, il faut savoir que ça provient d'un gouvernement qui a été particulièrement agressif contre l'environnement, c'est-à-dire un gouvernement qui déclare d'intérêt national un projet minier d'une entreprise canadienne. C'est un gros scandale qu'on connaît peu ou mal en France et dans d'autres parties du monde, dans la mesure où le Costa Rica est un pays qui projette une image qui va tout à fait à l'encontre de scandales du point de vue écologique. Alors, l'un de ces scandales, c'est Crucitas, et l'un des autres gros scandales, c'est la culture de l'ananas, qui est aussi à trouver dans cette administration 2006-2010 un appui sans faille pour que le Costa Rica devienne le premier producteur mondial d'ananas. Et cela se doit à une façon de concevoir les contrôles en matière environnementale qui pratiquement laisse les producteurs de l'ananas faire ce qu'ils veulent et de semer leurs plantations là où ils veulent, sans aucun contrôle. Et on s'est rendu compte que ce ne sont pas 37 200 hectares d'ananas comme le prétend Commerce extérieur et le ministère de la Culture, ce sont 58 000 hectares d'ananas. Mais ça, c'est fait par accident, parce que le PNUD avait des images satellites qu'il utilisait pour d'autres choses, et on a réussi à les utiliser pour démontrer que l'ananas est bien plus important que ce que prétendent les autorités. Donc, vous voyez là aussi une stratégie du gouvernement costaricien de ne pas donner des chiffres qui donnent une idée réelle de l'avancée de la frontière de l'ananas sur les forêts tropicales.
Oui, parce que ça pollue énormément et ça produit énormément de dioxyde de carbone, j'imagine, cette culture de l'ananas.
Alors, quand vous lisez la liste des substances chimiques qui sont utilisées, ça fait vraiment peur, parce que certaines de ces substances sont prohibées par l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est le paraquat. Alors, on est dans un pays où il pleut beaucoup, et les zones où l'on est en train de semer l'ananas sont les zones où il pleut le plus. Et on a découvert que l'ananas a besoin de tout, sauf de beaucoup d'eau. Donc ils sont obligés de drainer à travers des canaux toute cette quantité d'eau, de pluie, mélangée avec ces substances chimiques. Le résultat, on peut le voir, vous pouvez aller voir les canaux d'irrigation des plantations d'ananas, il n'y vit aucune espèce parce qu'il y a quelque chose qui prive de vie tout être vivant. La relation de ces entreprises avec les autorités sont telles qu'il vaut mieux ne pas parler. Il vaut mieux ne pas faire d'enquête sur les conséquences exactes de la production d'ananas au Costa Rica.
Buenas. ¿Qué van a tomar?
Yo quiero algo natural.
Hoy tenemos piña, cas, mora, frutas y guanábana.
Piña.
piña.
Regálenos tres pesquitos de piña.
Con mucho gusto.
Nous voulons quand même en savoir un peu plus. Nous partons donc pour Siquirès de la province de Limón dans la zone Caraïbe. Ici, le climat est différent de la capitale. Beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide. Atmosphère tropicale.
Tomese la fruta.
Dans l'école de la ville, de nombreuses femmes se sont réunies. Quelques hommes sont présents aussi. Ils sont venus de tout le canton pour échanger et trouver des solutions à leurs problèmes liés à la culture de l'ananas.
Buenas tardes. Soy Claudia Rodriguez de Louisiana de Siquirres.
Bonsoir, je m'appelle Claudia Rodriguez. Je viens de Louisiana de Siquirres. Ça fait 20 ans que je vis ici. Avant, j'étais à San José. Louisiana, c'était une zone rurale où l'eau était pure, l'environnement sain, propre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les plantations d'ananas se sont tellement étendues. Les multinationales sont venues s'implanter et ils nous ont contaminés. Aussi bien l'air que l'eau. Mais le gros problème, c'est vraiment l'eau. Avant, on avait une source d'eau limpide, très bonne. Mais aujourd'hui, elle est contaminée parce qu'ils ont installé une plantation à 100 mètres au-dessus de cette source. Et c'est tellement pollué que ça nous a rendus malades. La majorité des familles sont malades. Mon mari est malade. Avant, on allait à la rivière qui était un endroit merveilleux pour se baigner. Maintenant, on ne peut plus le faire. Il y a même quelqu'un qui a bu la tasse. Il s'est senti mal et il est parti à l'hôpital. Le médecin lui a dit, n'allez plus jamais dans cette rivière pour vous baigner. Parce que vous allez finir à l'hôpital avec je ne sais quelle maladie. C'est terrible. Les personnes qui ont un métabolisme plus faible, ça leur a donné des ulcères, des allergies. Beaucoup ont des cancers de la peau. Pour le moment, je ne sais pas si ça vient de la contamination de l'eau ou bien du soleil, mais bon, le fait est qu'ils sont malades. Et moi, j'ai des problèmes de reins, parce que du coup, je ne bois pas assez d'eau. Si vous saviez, l'eau est vraiment dégoûtante. Donc, ce que je fais pour dissimuler son goût et son aspect, c'est que je prépare du café ou je la coupe avec des jus. C'est vraiment difficile. Notre lutte est vraiment compliquée.
L'autre domaine qui peut mettre à mal l'objectif à l'horizon 2021, c'est la question des transports. À eux seuls, ils sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et on peut vraiment le constater en marchant dans la capitale. Les habitants de San José vivent au rythme des embouteillages, des klaxons et des fumées noires qui s'échappent des bus. Après plus d'une heure passée dans les transports pour parcourir 10 km, nous arrivons dans le quartier La Sabana, où nous rejoignons une militante du transport électrique. C'est l'heure de pointe, il pleut, nous nous installons dans un café.
Mon nom est Monica Araya. Je suis la directrice de Costa Rica Limpia et la vice-présidente de l'Association costaricienne de mobilité électrique.
Donc, quels sont les problèmes majeurs du Costa Rica en termes de transport ?
Le Costa Rica a de nombreux défis à relever dans ce domaine. Le transport public date du siècle passé. Les bus sont vieux et polluants. Le système du Costa Rica est un système de concession. Et tous les 7 ans, les mêmes compagnies de bus obtiennent la concession. Toujours. Il n'y a pas moyen de dire à ces compagnies, attendez, ce bus est vieux, ce bus pollue. Si vous ne changez pas votre flotte, on vous retire la concession. Et comme ça, l'histoire serait terminée. C'est parce que les politiques ne veulent pas réguler. Personne ne veut payer le coût politique d'une telle décision et perdre l'appui des compagnies de bus. Il y a une autre limite, c'est que nous n'avons aucune culture piétonne. Quand vous marchez dans San José, vous voyez que c'est une ville avec de très belles choses. Mais c'est aussi une ville où les piétons sont en danger à cause des voitures. La combinaison entre un système de bus défectueux et une culture non tolérante envers les piétons fait que la première chose qu'une personne décide de faire, lorsqu'elle a un peu d'argent, c'est acheter une voiture. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'être totalement anti-voiture, parce que ce serait très difficile culturellement parlant. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens ont besoin d'options. Si un jour je n'ai pas envie d'utiliser ma voiture, je dois pouvoir utiliser de bons transports publics. Et si j'ai envie de prendre ma voiture, eh bien je le fais, mais elle doit être électrique.
Et avec tous les problèmes de transport du Costa Rica, vous pensez qu'il sera possible d'atteindre la neutralité carbone en 2021 ?
Les parametres.
Les mesures utilisées vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone, oui, parce que les paramètres prennent en compte les compensations par la forêt. Mais selon moi, ce qu'on doit faire d'ici 2021, et il reste 4 ans, c'est travailler sur le concept d'indépendance. Qu'est-ce qu'on célèbre en 2021 ? C'est le bicentenaire de l'indépendance du pays. Donc il faut qu'on puisse avoir la capacité de créer une nouvelle histoire en devenant indépendant du pétrole, indépendant des combustibles fossiles. Si nous sommes le pays de l'électricité renouvelable, un pays touristique, avec de nombreux parcs nationaux, avec beaucoup d'écotourisme, pourquoi ne créons-nous pas quelque chose de nouveau, comme devenir le pays où les touristes peuvent venir et parcourir tout le territoire en voiture électrique, grâce à l'électricité renouvelable du Costa Rica.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero.
Plus d'une vingtaine de pays se sont désormais fixés un objectif de neutralité carbone pour la plupart d'ici 2050, comme la France d'ailleurs. Merci à Léa Morillon pour ce reportage, à François Porcheron pour sa réalisation et sa mise en onde. Demain, nous vous parlerons des enjeux de la 23e conférence climat qui entame sa deuxième semaine à Bonn en Allemagne. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.